L'objectif qu'on se donne avec ce show-là, c'est d'offrir un micro à tout le monde. En fait, de vous faire découvrir des gens qu'on n'entend probablement jamais parler, des gens qui font des métiers exceptionnels. Puis Audrey nous a déniché quelqu'un qui fait un métier exceptionnel, puis on a le plaisir de l'accueillir en studio. Son nom, c'est Marie-Manuelle Moya. Elle a été à quelques pouces de s'appeler M&M.
Oh mon
ça aurait
Dieu.
Fait un nom de rappeur.
Hé, la Joe Poche, je pensais que je t'éclairais avec ça pour la matinée.
Ah non, on est là. Elle est sexologue et intervenante en prévention de la criminalité au PPQ. Salut Marie-Manuelle.
Allô.
Très contente de t'accueillir en studio. Marie-Manuelle Moya, MMM.
Ouais.
T'écrivais-tu ça au secondaire, MMM?
Non, on m'appelait par mon nom de famille au secondaire, en fait.
Madame Moya.
Ouais.
Voilà.
C'est sûrement pas la première fois que tu entends cette joke poche-là. Non, j'imagine.
Arrête! Je suis là pour ça! Ouais.
Non, mais je la comprends, moi, pain chaud, j'ai passé au cache aussi.
Non, c'est ça. Toi, t'es le cerveau de l'affaire. Le PIPQ, c'est quoi exactement?
En fait, le PIPQ, c'est un organisme qui existe. Là, cette année, on fête nos 40 ans. Là, fait que ça fait quand même longtemps. Puis, on est dans la ville de Québec. Fait que nous, en fait, notre mission, c'est d'intervenir avec toute personne de tout âge, tout genre, toute origine qui gravite autour ou qui a un pied un peu dans l'industrie du sexe, là, finalement, peu importe de quelle façon.
Adulte, adolescent?
Adultes, adolescents, okay. Proches de ces personnes-là aussi, là, fait que vraiment, on ratisse assez large.
Okay. Puis les services que vous offrez?
On a un service d'accompagnement, tu sais, en travail de rue, donc qui est quand même une approche là, qui est reconnue. Là, fait que le travail de rue, c'est vraiment d'aller dans le milieu naturel des gens. Là, fait que nous, ils vont se promener dans la ville de Québec, les quartiers centraux, ça bouge, Saint-Roch, Hauteville, Basseville. Fait que ça, c'est notre plus gros volet, je dirais, là, toute l'intervention vraiment de proximité avec ces personnes-là. Là.
Marie-Manuelle, t'es sexologue, surtout intervenante en prévention de la criminalité, justement, au PEPQ. Donc, t'es vraiment nichée en prévention de l'exploitation sexuelle. Donc, tu travailles avec les jeunes garçons, tu les aides finalement pour pas peut-être tomber dans le proxénétisme, ouais. Ou t'aides aussi les jeunes garçons qui peut-être, bon, malheureusement, ont déjà un casier ou sont déjà passés par là. La prostitution, est-ce que c'est un réel problème, je vais dire, dans la région de Québec?
Bien, tu sais, il faut comprendre que la prostitution a jamais pas existé à Québec. Ça, c'était clair. T'sais, on a eu l'opération Scorpion, là, ça fait déjà, mon Dieu, quasiment 25 ans, là, quand même. Là. Mais, tu sais, suite à l'opération Scorpion, on dirait qu'on a comme un peu arrêté d'en entendre parler, mais ça a toujours été présent. Là, je dirais que en ce moment, la prostitution, l'exploitation sexuelle, peu importe comment est-ce qu'on nomme ce phénomène-là, c'est vraiment omniprésent dans les villes, mais aussi même dans les villes éloignées. Là. Donc, il n'y a aucune ville en ce moment au Québec qui peut dire qu'elle est épargnée par ce phénomène-là.
Mais c'est le plus vieux métier du monde. Ouais. Mm-hmm. Puis malheureusement, il y a des gens qui embarquent là-dedans et qui gâchent leur vie de bord comme de l'autre. Puisque moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux nous jaser de ces jeunes garçons-là qui décident d'embarquer là-dedans en impliquant d'autres êtres humains. Comment t'en es venu à développer en toi cette empathie-là puis ce désir d'aider ces jeunes garçons-là?
Mais en fait, il faut comprendre que, tu sais, moi, je me suis toujours intéressée à comprendre, mais qu'est-ce qui peut amener une personne à faire du mal un peu, tu sais, c'est comme quelque chose que je comprenais tellement pas que...
Parce qu'on n'est pas méchant, là.
Mais non, c'est ça. C'est comme si c'est un parcours de vie, puis en me penchant un peu sur le sujet, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces personnes-là, ils ont un parcours qui va être semblable aux victimes. Tu sais, parsemé de plein d'embûches, d'échecs, de moments où ça allait vraiment pas bien, puis tout ça. Mais sauf que leur chemin a comme été différent. Eux autres, ils ont pris un autre chemin pour se rendre un peu plus vers la criminalité. Fait que, tu sais, comment est-ce que j'en suis venue? Bien, crime en voulant un peu comprendre tout ça, puis en jasant aussi avec des gars qui ont des facteurs de risque, puis en me rendant compte que crime, c'est pas vrai que ces gars-là, tu sais, c'est juste des criminels ou, tu sais, ils ont rien de bon à dire ou peu importe. Au contraire, j'étais comme, OK, ils ont tellement plein de qualités, ils ont tellement plein de ressources en eux, mais sont incapables de les mettre en application ou sont incapables de s'en rendre compte pour pouvoir les utiliser. Donc, finalement, bien, ils vont vers le crime, ce qui est une voie, disons, où ils sont vraiment valorisés, là, tu sais, c'est clair, là.
Mais t'sais, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces jeunes garçons-là? Parce que j'imagine que c'est pas tous des jeunes qui viennent de milieux nécessairement défavorisés. J'imagine qu'il y en a qui ont eu un super beau parcours de vie jusqu'à ce que mauvaise rencontre, mauvais entourage, j'imagine.
Oui, exactement. Tu sais, il y en a qui ont des familles, on va dire, au-dessus de tout soupçon, là, tu sais. Puis, un moment donné, ils ont rencontré des gens, ils ont peut-être des facteurs individuels fragilisants, ils ont rencontré des amis, tu sais, les amis, là, on a tous été adolescents, là, en tout cas, moi, au secondaire, je ne jurais que par mes amis, là, donc, un moment donné, ils tombent sur ces personnes-là, puis boum, tu sais, ça part, puis...
Ah, puis c'est facile, il faut le dire, là. Ouais, moi, je suis tombée dans une mauvaise gang, puis c'est l'entourage que j'ai qui fait que aujourd'hui tout va bien, mais si t'as pas cet entourage-là qui est soit au courant
ou
qui est présent... Mais souvent, ça se peut que tu t'en sortes pas.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, en même temps, le crime ou ce milieu-là, c'est vraiment valorisant. Le fait que, tu sais, je veux dire, ça va pas bien à l'école, tu as de la difficulté, l'éducation physique, c'est pas ta force. Tu sais, toi, tu es un petit gars qui essaye de se démêler dans tout ça. Puis là, boum, tu tombes sur des amis qui, eux, vont dire, mais toi, ta force, c'est de faire ça, je sais pas moi, d'aller voler des dépanneurs. Puis là, wow, tu sors de là, on te valorise, tu as de l'argent, tu as une gang d'amis, tu vas consommer à travers tout ça, bien, c'est sûr que l'école, là où c'est difficile, la maison, là, tu te mets à te pogner avec tes parents, tu sais, à un moment donné, ça s'accumule, puis aller vers tes amis, ça va être un petit peu plus... tu vas y aller plus facilement, mettons, là.
Si on parle d'exploitation sexuelle, j'imagine que le portrait de recrutement a dû beaucoup changer avec les années. Maintenant, on a les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que tu entends? Comment ça fonctionne?
Mais c'est sûr que les réseaux sociaux sont vraiment game changers, je dirais, dans toute l'industrie. Tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué d'aller sur TikTok, là, puis de trouver une vidéo, tu sais, d'une personne qui parle de son travail, elle est danseuse dans un bar, puis mon Dieu, elle a donc bien du fun, puis du plaisir, puis elle montre l'argent, puis tout ça. Puis ça, c'est une réalité. Je suis pas en train de dire que la fille, ce qu'elle montre, c'est pas réel. C'est pas ça, c'est une réalité. Ce qui arrive, c'est que nos jeunes, quand ils tombent avec ça dans leurs mains, ils ont peut-être pas nécessairement tous les outils pour critiquer un peu la vidéo qu'ils viennent de voir, se situer un peu, moi, mes limites, c'est où, moi, mes valeurs, etc. Donc, ça devient vraiment attrayant dans une société, bon, consommatrice, là, tu sais, on s'entend, là, l'objectif de la vie, c'est de faire de l'argent, s'acheter une maison, puis ça. Fait que pour nos jeunes, ça devient vraiment intéressant parce que c'est de l'argent qui va être rapide, très rapidement. Je vais faire des gros montants. Je vais avoir accès à un milieu de vie, aussi un mode de vie, à des gens, à une certaine popularité. Peut-être même, je vais pouvoir voyager, mettre toutes ces photos-là. Fait que le milieu, il devient vraiment intéressant. Ouais. Donc, au niveau du recrutement, il y a comme une base déjà faite.
Ils sont déjà intéressés.
Ouais.
On va y revenir. J'avais rencontré, je pense que c'est à toi que j'avais parlé de ça, j'avais rencontré un thérapeute qui travaillait à Robert Schwartz, qui est maintenant rendu l'Institut de santé mentale de Québec. Et lui, il travaillait avec les pédophiles. Puis tu comprends que moi, en le recevant, je me disais, mais comment tu fais pour aider des pédophiles? Puis de la façon dont il me l'expliquait, il me disait, tu sais, Yann, moi, là, c'est une job que personne ne veut faire, mais c'est une job qui est extrêmement valorisante parce que j'aide cette personne-là à ne pas agresser d'autres personnes.
C'est essentiel.
Et c'est essentiel, ce genre de travail-là. Puis j'ai demandé, tu sais, es-tu capable de faire la coupure quand tu arrives à la maison, tu sais, avec tes enfants? Es-tu capable de ne pas en vouloir à ces gars-là? Toi, tu es une mère de famille. Es-tu capable de... Ça a pris combien de temps avant que tu te dises, regarde, j'en veux pas à ces gars-là. Ils ont choisi un métier qui était particulier, qui faisait du mal aux gens. Mais moi, je vais les aider. Comment tu as fait cette coupure-là dans ta tête?
Mondou, ouais, c'est une bonne question. Ben, c'est sûr que moi, tu sais, je suis en contact avec du positif au niveau de ces gars-là. Donc, il y a comme une partie où peut-être que j'oublie, puis c'est bien que je l'oublie parce que sinon, ça deviendrait difficile peut-être au quotidien de toujours penser au mal qu'ils ont fait. Mais comme je suis en contact avec tellement du positif avec eux, des beaux échanges puis tout ça, j'ai pas nécessairement cette connexion-là. Là. C'est comme si je vais au-delà. Tu sais, nous, en intervention, on travaille tout le temps avec un iceberg, puis on se dit tout le temps, va en dessous de l'iceberg de la personne, le comportement, c'est en haut. Mais moi, je suis tout le temps en dessous. Fait que si je vais en haut, c'est sûr que ça me dérange. C'est normal, tu sais, c'est des comportements qui sont dérangeants, qu'on aimerait qu'ils n'arrivent pas. Mais moi, je suis tout le temps en dessous. Fait que quand je suis en dessous, je suis connectée à, bien, il a besoin de ci, il a besoin de réconfort, il est peut-être un peu stressé, il a besoin de valorisation, on va essayer d'y en donner autrement que par le crime, tu sais.
Est-ce que ces gars-là le savent, qu'ils font de la traite de personnes?
Ah, c'est une très bonne question. Je pense que en fait, est-ce qu'ils savent qu'ils font tout le temps du mal à quelqu'un? Pas nécessairement, tu sais, ça c'est clair. Je pense qu'il y a des distorsions dans lesquelles ils sont ancrés qui font en sorte qu'ils sont capables aussi de faire ça. Puis ils croient fortement à leurs distorsions. Donc, tu sais, on va poser la question à un client, est-ce que tu penses que la personne à qui tu as payé le service, tu sais, était consentante à offrir ce service-là? Pour eux, c'est, ben oui, je l'ai aidé même, là, tu sais, parce que je l'ai payé, puis tout ça. Donc, il y a des distorsions, ils s'accrochent à ces distorsions-là, puis ils croient fort.
Comment tu les aides, ces jeunes-là, littéralement, au quotidien? Mettons qu'on prend une journée type, on dirait que j'essaie de comprendre le processus. À partir de quel moment tu les accompagnes, puis comment tu les aides dans le processus?
Ben tu sais, moi, je suis la cool qui arrive puis qui est comme, pour de vrai, moi, je vais pas te dire quoi faire, quoi pas faire, mais je vais te poser des questions, je vais t'amener des réflexions. Fait que, tu sais, je suis pas beaucoup confrontante. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui fait en sorte que les jeunes, ils veulent venir jaser. Mais tu sais, les ateliers, tu sais, quand on est assis avec des gars, ce qu'on fait, c'est qu'on jase. Carrément. Puis on a souvent l'impression que les gars, ils veulent pas parler de leurs émotions, ils veulent pas parler de leur intimité, blablabla, tu sais. Puis en plus, moi, je suis une fille. Fait que là, tu sais, on rajoute un espèce d'obstacle pour eux. Mais non, fait que ces gars-là, il faut juste dropper le sujet, puis le dropper dans la plus grande ouverture aussi. Là, ils ont quelque chose à nous dire, ils ont une réalité. Puis si moi, je me concentre toujours sur ma vision des choses, ben je ne connecterai jamais à eux. Fait que je pars de eux, puis je questionne.
Ouais, j'ai regardé les stats qui ont été rapportées par des organismes qui ressemblent au tien, mais c'est dans le secteur de Montréal. Une fille peut rapporter un pimp entre 300 et 500 000 $ par année. Comment ce gars-là peut aller chercher un job dans un restaurant après ça à 20 $?
Ouais. Ah, mon Dieu, ça, c'est le plus gros enjeu. Puis au-delà de, oui, effectivement, ce point-là, mais en plus, il y a le tag. Là, souvent, ils vont même être délinquants sexuels à contrôler, je ne sais plus trop. Donc, ils sont obligés de le déclarer. Fait que, tu sais, effectivement, que quand ils vont sortir, par exemple, de détention, peu importe, même s'ils ont la plus grande volonté du monde, c'est vraiment difficile pour eux de par le fait qu'ils ont comme un rapport avec l'argent. T'sais, tout ça est à rebâtir, en fait. Là, aller flipper des burgers à 15 $ de l'heure, bien, c'est clair que c'est moins intéressant. Puis on a juste envie de les comprendre quand même.
Puis c'est une vie de misère, on va se le dire. Ouais. Tu gagnes 15 $ de l'heure, tu vas avoir de la misère de trouver un appartement. Tu veux une famille, c'est difficile quand tu gagnes 15 $ de l'heure d'avoir une famille.
Puis quand
tu
as osé transgresser la ligne une fois du criminel, c'est facile. C'est ça, c'est facile d'y retourner, c'est comme dans n'importe quoi. J'ai envie, Marie-Manuelle, qu'on parle du principe du parent. Tu travailles en prévention. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Comment tu détectes chez ton jeune qui est peut-être en train de tomber dans une loupe qui l'amènerait vers le proxénétisme?
Ben, tu sais, si on prend au niveau des garçons, là, j'ai envie de dire que, tu sais, les facteurs qu'on voit, tu sais, les facteurs de risque, là, si on veut, au proxénétisme, c'est tout ce qui est en lien avec les relations, tu sais, les relations amicales, les relations parentales, tu sais. Est-ce qu'on s'intéresse à notre jeune? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'il écoute à la télé? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il regarde sur son téléphone? Tu sais, nos jeunes sont dans leur chambre le soir sur leur téléphone. Ben, tu sais, qu'est-ce que tu as écouté? Tu veux-tu me montrer? Tu sais, qu'est-ce que tu consommes sur TikTok? Ton algorithme, blablabla, tu sais, tout ça fait en sorte qu'on s'intéresse à eux puis de leur faire vivre, tu sais, du positif, etc. Ben, tu sais, ça, c'est ce qu'il faut faire, en fait, en tant que parent. Fait que, tu sais, mais au niveau de la détection, c'est sûr que c'est difficile. Les jeunes, ils vont pas, tu sais, en parler à leurs parents, mais s'il y a une bonne relation parent-enfant, j'ai envie de dire que pour de vrai, on peut faire bien des choses avec une relation positive parent-enfant. Là.
OK. Est-ce que c'est à nous, en tant que société, de laisser peut-être un peu plus de place à ces gens-là qui trouvent rien de mieux que d'exploiter d'autres personnes? Parce que, tu sais, on va se le dire, là, moi, quand j'entends parler d'un proxénète, c'est vraiment pas positif dans ma tête. Mm-hmm. Puis, à mes yeux, à moi, puis je sais que je suis cruel parfois, c'est la raison pour laquelle je fais de la radio. À mes yeux, à moi, tu sais, quelqu'un qui exploite quelqu'un puis qui fait du mal à quelqu'un, qui va traumatiser quelqu'un à vie, devrait faire du temps de prison à n'en plus finir. Mais la société est plus comme ça. La société veut réinsérer ces gens-là pour qu'ils deviennent un jour des actifs dans la société. De l'autre côté, il faudrait aider autant les victimes qu'on aide ceux qui font ce genre d'actes-là. Mais est-ce que tu considères qu'on devrait peut-être faire une petite partie de notre bord de côté, un pas supplémentaire en disant « OK, il a fait vraiment une erreur, j'ai eu de la misère, ça ne va pas nécessairement en lien avec mes valeurs fondamentales ». Mais je peux peut-être y laisser une chance.
Ben, j'ai envie de dire que oui, tu sais, parce que tout le monde peut se réhabiliter si on a la chance de le faire. Mais je pense que ce qui manque aussi, c'est beaucoup en prévention. Tu sais, si on travaille avec nos jeunes quand ils ont 16, 17, 18 ans, avec nos jeunes garçons, ben, peut-être que rendus à 19, 20, 22 ans, ce ne sera plus ceux que tu parles en ce moment, tu sais, qui ont fait du mal. Là. Fait que ça, c'est un gros trou de service dans notre société d'aller vers les garçons. Mais pas les garçons, ben oui, les garçons qui dérangent, mais leur offrir du positif à eux aussi. Tu sais, quand tu déranges, ben t'es sorti de l'équipe de basket, t'es sorti de la classe, blablabla. Fait qu'au
approche
final,
punitive. Là.
Oui, c'est ça. Au final, là, t'en as accumulé en maudit des punitions puis des échecs.
Marie-Manuelle Moya, sexologue et intervenante en prévention de la criminalité au PPQ. Est-ce qu'on t'invite souvent dans les écoles secondaires pour faire des conférences, pour parler de ces sujets-là?
Oui, quand même, pour de vrai, là, je dois dire qu'on a un système qui est vraiment bien établi dans les écoles qui fait en sorte que l'exploitation sexuelle, c'est pas un sujet qui est mis de côté, là. Puis en même temps, bien, dans notre société, si c'était mis de côté, je trouve qu'on passera à côté de quelque chose parce qu'en ce moment, c'est omniprésent chez nos jeunes. Puis nos jeunes, ils savent c'est quoi. Ils veulent en parler. Ils ont toute une opinion là-dessus. Fait que, tu sais, si on veut qu'ils soient bien informés, bien, il faut en parler. Puis oui, on est invité dans les écoles, puis c'est bien, on veut continuer de l'être, là.
Je trouve ça le fun que les jeunes aient cet intérêt-là aussi d'être éduqués par rapport à ça. Tu sais, il y en a tellement eu d'horreur que je trouve ça vraiment positif. Ouais. Tu as accompagné, si je ne me trompe pas, les parents de jeunes qui vivent de l'exploitation sexuelle. Tu as vu l'autre côté de la médaille aussi. C'est quoi le plus difficile, hein?
L'isolement. Tu sais, en tant que parent, quand que ton enfant est dans ce milieu-là, ben tu vas pas en parler à un souper d'amis, tu vas pas, tu sais, il y a beaucoup de parents que j'étais quasiment la seule personne qui savait que leur enfant était dans l'industrie. Fait que, tu sais, le parent se sent complètement impuissant, isolé. La culpabilité, évidemment, là, tu sais, les mamans vont nous dire où je l'ai échappé, où j'ai manqué quelque chose, tu sais, etc. Fait que toute cette espèce de sentiment-là qu'ils vivent un peu tout seuls, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué quand je les accompagnais, là.
Puis comment tu sors ton enfant de là? Parce que, écoute, je t'amène quelque chose. Nous autres, on a des saisons de podcast à Boulevard 102.1. Puis dans celui que j'anime, Sextape, j'ai parlé avec une jeune fille qui s'appelle Clémentine. Son histoire avait déjà été largement partagée là, du côté de Radio-Canada aussi. Puis elle, son père, a carrément dû se faire passer pour un client pour être capable de la récupérer à un certain moment. Puis c'est des doutes, des soupçons qu'il y avait, mais je veux dire, elle leur en a jamais parlé, là. Fait que comme parent, comment tu es capable d'agir dans ces moments-là?
Ben en fait, c'est sûr que, tu sais, elle, son histoire, c'est exceptionnel, là. C'est clair que c'est pas toutes les pères qui peuvent débarquer, aller chercher leur fille, puis que leur fille va dire « Parfait, je te suis », tu sais. Ça, ce serait peut-être le numéro un. Comment sortir son enfant? Tu sais, j'ai envie de revenir à la relation parent-enfant. C'est comme le plus fort, tu sais. Quand un parent nous appelle, la première chose que je vais leur dire, c'est moi, mon objectif ultime, là, c'est même pas tant que votre enfant sorte de ce monde-là, c'est que vous gardiez une relation positive avec votre enfant. Parce que ça, c'est ce qui va faire en sorte que si ça se met à moins bien aller, bien, c'est à votre porte qu'elle va venir cogner, puis c'est ça qu'on veut, tu sais. Fait que c'est comme le numéro un, là, que ça se passe bien, qu'il y a une communication, que tu sois capable de s'en parler même.
Écoute, Marie-Manuelle, je te garderai pendant des heures et des heures, j'ai plein de questions. Est-ce que le pardon est important dans le processus?
C'est une bonne question.
Est-ce que un jeune que tu as accompagné a demandé pardon à ses victimes?
Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Puis ça, ben, tu sais, c'est un long processus, là. Il y a un organisme, là, Equijustice, là, d'ailleurs, je les plug. Salut, Equijustice. qui peuvent accompagner quand même des personnes à faire ça parce que, tu sais, lui, il veut demander pardon. Est-ce que la fille, elle veut accepter les pardons? Tu sais, il y a plein de choses à faire, là. Puis est-ce que le pardon peut se faire d'une autre façon? Tu sais, nous, au PIPQ, on a déjà même impliqué un jeune dans le soir, il venait faire des repas pour le lendemain, les femmes dans l'organisme, là. Donc, demander pardon, ça peut se faire de plein de façons, là.
Tu as un projet sur lequel tu travailles depuis à peu près 4 ans, qui est celui justement qui mène à aider ces jeunes garçons-là. Ça fait 1 an et demi que le projet roule officiellement. Est-ce que tu as vu une différence depuis l'installation de ton projet?
C'est quand même tôt pour voir une différence, mais tu sais, ce que moi, je retiens vraiment du projet, c'est qu'au départ, tu sais, il faut comprendre que ça a été vraiment difficile de le mettre en place. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, tu réussiras jamais à garder des gars pendant 8 semaines, blablabla, tu sais. Il y avait plein de choses, 1 heure de temps jaser, jamais parler de porno, les gars, ils voudront pas, tu sais. J'avais plein de bâtons dans les roues, puis finalement, il y a rien de ça qui est arrivé, là. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu sais, si, je sais pas, moi, il y a des gens en ce moment qui nous écoutent, qui travaillent dans les écoles, TES, peu importe, tu sais, vos gars, assisez-vous avec eux, puis parlez-leur, tu sais. Parlez-leur de c'est quoi une relation saine pour eux, c'est quoi, tu sais, t'as pas besoin de savoir ce qu'ils écoutent dans la porno, mais c'est quoi qu'ils en pensent, tu sais, c'est quoi que ça y fait vivre, est-ce qu'ils pensent que dans la réalité, c'est la même chose, est-ce qu'il y a une déception, y a-t-il un écart, mais parlons-leur à nos garçons, tu sais. Moi, c'est vraiment ce que je retiens, les gars, ils veulent parler, c'est pas vrai qu'ils veulent pas.
ce que je trouve beau dans tout ce que tu dis, c'est le fait que souvent, les filles, dans les dernières épisodes, tu me coupe si je suis dans le champ, mais c'est l'impression que moi j'ai, les filles, on se fait beaucoup éduquer par rapport à se protéger contre les jeunes garçons, savoir comment dire oui, dire non, le consentement, puis souvent ce que je lis sur Internet, c'est « Oui, mais pourquoi on les éduque pas bien, nos garçons? » Puis j'ai l'impression que tu fais partie de cette éducation-là, puis je trouve ça vraiment beau, je te dire, là.
Oui, effectivement. Bien, c'est ça un peu que... Parce que c'est par l'éducation qu'ils vont savoir, tu sais, je parlais tantôt des distorsions, bien, si personne leur apprend que c'est des distorsions qu'ils ont, ils ne sauront pas, puis ils vont continuer comme ça. Fait que c'est par l'éducation qu'on comprend mieux les choses, finalement.
Est-ce que les gars que t'aides, qui a aidé à sortir du milieu du proxénétisme, ça se dit-tu, ça? Ouais. Sortir du milieu du proxénétisme, est-ce que ces gars-là sont obligés de te côtoyer ou...
Non.
Ils acceptent de te côtoyer.
Ils acceptent, oui. Puis c'est vraiment l'essence même du projet,
c'est
en
un
fait,
premier là. Pas, là.
Oui, effectivement. Puis c'est pour ça que le projet se veut pas être confrontant. Tu sais, on est super underground. Tu sais, on n'est pas là pour leur dire quoi faire, etc. Justement parce qu'on veut que ce soit volontaire. Fait que non, il n'y en a aucun qui est assis avec moi, qui a un bras tordu. Puis même, c'est même pas, tu sais, je voulais même pas que ce soit « Ah, oh, ça va être beau pour ta probation ». Non, on n'est pas là. Je veux que ce soit vraiment complètement volontaire. Fait que ouais, c'est ça. Ils veulent.
Comment on fait pour rejoindre les gens du PPQ?
Ben par téléphone, ça peut être sur Facebook. T'sais, on est dans le quartier Saint-Sauveur. Là, t'sais, notre adresse n'est pas affichée, mais notre adresse n'est pas confidentielle. On peut aller la retrouver sur notre site internet. Là, fait que puis on est sur tous les réseaux sociaux aussi. Là, sous le nom des nuanceuses, principalement Instagram, Snapchat.
Les nuanceuses.
Les nuanceuses.
Je trouve ça
ouais.
très beau. J'aime ça.
Avez-vous quelque chose à ajouter, Madame la Présidente?
Non, moi, je suis très satisfaite. Merci d'avoir pris le temps, Marie-Emmanuelle Moyer, qui est sexologue intervenante en prévention de la criminalité au PQ. Si jamais vous avez besoin de ces coordonnées, vous nous textez au 88-971-102. On fera le lien. Là.
10h46, on fait une courte pause. Merci beaucoup.
Merci.
Bye-bye. Reg against le matin. Le matin.